BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. François Sorel.
Ah ouais. Et un grand bonsoir à toutes et à tous, 20h pile en ce mercredi soir. Toujours un plaisir que de vous retrouver, bienvenue sur le plateau de Tech & Co. Tech & Co, la quotidienne, vous le savez, on est là chaque soir, 20h, 21h30, du lundi au jeudi. La radio, la télé, peut-être êtes-vous en train de nous écouter ou nous regarder en direct. Mais après, bien évidemment, les podcasts sont disponibles et les replays. Avec ce soir, donc, au sommaire de Tech & Co, on va revenir sur le produit qui a bluffé tout le monde en ce début d'année, c'est le Vision Pro d'Apple. Mais bon, après que le soufflet soit retombé, qu'est-ce qu'il en reste de ce casque? On va en parler avec nos invités dans quelques instants. Et puis Boston Dynamics, qui nous a bluffé durant ces dernières années avec ses robots, a mis à jour son robot Atlas, nouvelle génération, électrique, impressionnant, là aussi on va en parler. Et puis tout à l'heure, je recevrai le directeur général de Motorola France. Motorola qui a de fortes ambitions dans notre pays. Il veut devenir le troisième vendeur constructeur de smartphones. Vont-ils y arriver? On s'intéressera justement à leurs nouveaux modèles qui font la part belle à l'intelligence artificielle. Tiens, c'est un peu la mode en ce moment tout ça. Merci d'être là, bienvenue. C'est parti pour Tech & Co, la quotidienne.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Le débrief de l'actu tech, c'est parti. Avec, ce soir sur le plateau de Tech & Co, Taïg Chris. Salut Taïg.
Salut, salut.
Comment vas-tu?
Eh ben écoute, tout roule. Bah, ravi d'être ici.
Ravi de te retrouver, Taïg Chris. A-t-on besoin de le présenter? Ancien sportif de haut niveau, aujourd'hui, voilà, entrepreneur qui réussit avec On-Off.
Avec On-Off, qui grandit.
Une belle boîte.
On est 100, on a fait 20 millions de CA l'année dernière.
Voilà.
Donc c'est l'application qui génère un deuxième numéro en un clic.
Sans avoir une deuxième carte SIM.
Exactement.
C'est ça, pourtant l'idée est toute bête, hein. Mais il fallait y penser, il fallait le réaliser techniquement.
Surtout le réaliser techniquement,
et voilà.
C'était ça le challenge.
Et c'est incroyable parce qu'évidemment, tu racontes très bien cette histoire-là, que tu as eu cette idée sur ton lit d'hôpital après un accident, et ça t'a permis de changer de voie.
Exactement.
Changer
j'ai de, bien fait de me casser la jambe.
De destin, c'est fou cette histoire-là. Jérôme Colombin est avec nous. Salut Jérôme.
Bonsoir, bonsoir.
Et journaliste, mais aussi entrepreneur en quelque sorte, puisque Jérôme, vous le savez, depuis quelques temps, a créé son propre média qui s'appelle Monde Numérique, de l'écrit, de l'audio, de la vidéo, et vous pouvez télécharger tout ça quand vous le voulez, bien sûr, spécialisé dans la tech, avec cette interview de Yann Lequin que tu as pu réaliser la semaine dernière, qui est très intéressante. D'ailleurs, tu étais venu nous en parler, c'était la semaine dernière.
C'était tout frais.
Et Lucas Perraudin, les amis, est de retour.
Bonsoir.
Et là, j'imagine en fait les banderoles du club de fans de Lucas Perraudin qui se soulèvent là devant leur télé. C'est comment gentil. Ça va, Lucas?
Très bien, merci. Je suis très content d'être de retour parmi vous.
Bah, tu sais que tu nous as beaucoup manqué, sincèrement, et je dis ça vraiment, c'est sincère, parce que Lucas est un débriefeur régulier qu'on accueille très souvent dans Tech & Co, qu'on accueille, et puis voilà, tu partages ta vie entre l'Angleterre et la France. Tu as eu un petit souci, voilà, parce que ça se voit tout de suite, il est sportif, hein, plus que moi.
Trop apparemment.
Quand même, Lucas. Et puis voilà, tu as fait un mauvais geste. Petit problème.
La retraite des arts martiaux et des sports de combat.
Et ben voilà. Ben écoute, maintenant tu joues au ping-pong.
Voilà.
C'est plus train.
Vélo, comme tous les gens de mon âge.
Ou le ping-pong en VR, tiens, c'est pas mal ça aussi.
Ah oui.
Bon, plus sérieusement, en tout cas, on est ravis de te retrouver. Tout va bien maintenant, ça va, tu t'es remis?
Tout va bien, on est presque sortis de. Du bois.
Du bois et du tunnel. Tiens, deux sportifs qui savent que quand on se blesse, ça peut être violent, hein, quand même. Hein.
Ah, c'est clair.
Ouais, ça risque pas de nous arriver.
Hein. Non, c'est sûr. À part se brûler en sortant le gratin dauphinois du four, nous, c'est la seule blessure qui peut nous arriver. Enfin bref, on sait jamais, on dit ça, mais tout peut arriver, hein, quand même. Alors, dans l'actu, le Vision Pro dans un instant, on parlera aussi de ce produit qui avait fait le buzz en début d'année et qui commence à être testé par les journalistes américains, c'est les iPin. On avait évoqué brièvement ce sujet en début de semaine, on va y revenir. Et puis, l'IA générative, les Français en sont accros, on parlera de Mistral.ai et de Atlas. C'était dans le sommaire tout à l'heure, vous savez, cette boîte Boston Dynamics qui nous bluffe avec des vidéos incroyables. Et là, Atlas, en tout cas, ancienne version, prend sa retraite pour être remplacé par un nouveau qui est électrique. Parce que effectivement, quand on voit les Optimus ou les robots de Human aujourd'hui, ils sont électriques, ils sont plus hydrauliques. Hein. Donc, on passe à une nouvelle génération. Mais pour débuter, le Vision Pro, c'est l'un des sujets que tu nous as proposé, Lucas. Parce que, rappelons que, évidemment, tu es aujourd'hui fondateur de Gunam Digital et tu conseilles, en fait, plein de boîtes dans la manière de communiquer sur les réseaux sociaux. Mais auparavant, tu étais directeur de Reality Labs, donc la branche de Meta de la VR dans la région IMEA. Et évidemment, tu connais tout ça très, très bien. Tu voulais nous parler du Vision Pro, parce qu'il est sorti le 6 février, donc ça fait 2 mois et demi maintenant. Et on a l'impression que le soufflet retombe un peu quand même.
Oui, il retombe même fortement. Alors, je me suis permis de tweeter il y a quelques semaines « Does anybody remember Vision Pro ?» Qui se rappelle du Vision Pro ? Il a un peu disparu, ce qui est normal. Et ce qui était...
Ça parce que, c'est pas parce que tu étais chez Meta qu'il y a un concurrent d'Apple,
ouais,
quand même.
C'est ce que j'allais dire.
Non, alors pas du tout. Elle ne voit pas du tout d'animosité de ma part, simplement du réalisme et de l'expérience dans le secteur. Il était très évident que... il y avait des problèmes fondamentaux dans le design du produit, le poids, l'encombrement. Et puis, même si c'est la meilleure solution technique qui existe aujourd'hui, il n'y a pas d'innovation globale par rapport à ce que fait Meta, par exemple. Il y a des choix différents. Donc, on a pris des matériaux plus chers, des choses plus avancées, qui pèsent plus lourd. Donc, chez Meta, on privilégie le poids. Mais on savait très bien. Et de temps en temps, on peut faire un tour d'honneur, un tour de victoire. On en parle depuis 2 ans maintenant. On dit que cette technologie n'est pas prête, elle n'est pas prête pour le mainstream. Là, ce qui est un peu étonnant, c'est la vitesse à laquelle le soufflet est retombé. Et à mon avis, d'après ce que j'ai entendu d'interne, c'est les taux d'engagement avec le matériel qui ont chuté, ce qui était le cas un peu chez Meta avec les premiers. Déjà, le taux d'engagement, ça veut dire j'achète un Vision Pro au début, je le montre à tout le monde, je le mets 3 fois par jour sur la tête.
Et après, il finit dans le tiroir.
Moi, des Quest, j'en ai 5 dans mes placards. Hein. Je m'en sers parfois, mais c'est rare. Enfin, le nouveau est d'ailleurs pas mal.
Mais j'ai jeté récemment des vieux casques de VR.
C'est vrai.
Mais des trucs où tu mettais le téléphone là.
Ah oui, des trucs Samsung.
Oui,
c'est vrai qu'on a connu cette histoire-là aussi.
Ça n'est pas une utilisation viable en dehors d'utilisation soit ponctuelle, soit spécialisée. Alors dans le cas de B2B, ça marche bien, learning, apprentissage, développement, simulation. On prend un casque, on le déploie sur des forces de travail pour leur apprendre des choses ou leur faire de la prévention d'accidentologie, par exemple. Mais en cas d'usage individuel, malgré l'enthousiasme du culte Apple, c'est pas prêt.
Ouais, mais alors, moi, je suis vraiment pas d'accord, mais vas-y.
Parce que tu viens de l'essayer, toi.
Après, toi, t'as essayé ou pas ?
Non, pas le Vision Pro.
Moi, j'ai pas essayé pour le coup.
T'as pas essayé le Vision Pro, c'est fou, ça.
Non, mais j'ai pas... J'aurais pu, et j'en ai autour de moi. Je ne l'ai pas essayé parce que j'ai pas envie et que je connais tellement de gens qui l'ont et qui l'ont benchmarké, notamment chez Meta, que je l'ai...
Tu l'as testé par procuration.
Je l'ai testé par procuration, ça ne va rien m'apporter.
Ouais, mais je pensais que ta curiosité naturelle t'aurait poussé à le chausser au moins pour voir la qualité de la qualité visuelle, les choses comme ça.
Non, enfin, j'aurais pu vous mentir, mais franchement, je ne l'ai pas essayé.
Non, j'ai pas envie.
Je vais vous dire, moi, je n'ai pas essayé en tout cas les autres solutions. C'est la première fois que j'essaie une solution comme ça. Mais j'ai été sidéré. C'est-à-dire que je n'en revenais pas. C'est comme si on me présentait une technologie de 10 ans ou 20 ans en avant. Je n'en revenais pas de l'expérience utilisateur. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, les lunettes ne sont pas transparentes. C'est-à-dire qu'il y a un vrai... on ne peut pas voir au travers.
Il y a un écran dedans et dehors.
Voilà. Mais quand on les met, on a quasiment l'impression de voir à travers des lunettes, quoi. Donc c'est quand même très très bluffant de mettre quelque chose qui n'est pas transparent, on le met et ça devient transparent.
C'est-à-dire qu'on te retransmet l'image d'une caméra qui est de l'autre côté du masque, en fait.
Voilà, mais bien sûr qu'on voit un petit filtre comme un filtre sur des lunettes, mais il y a tellement pas de latence et c'est tellement fluide que tu n'as pas l'impression de voir le monde. Tu peux marcher dans la rue. Moi, je pensais que les mecs qui marchent dans la rue, il y a quand même un truc où ils n'arriveront pas, tu sais, à savoir où mettre les pieds. Là, t'as l'impression juste de mettre des lunettes. Alors oui, elles sont très grandes, mais tu vois à travers. Un truc qui est complètement dingue, c'est les vidéos immersives. Alors, tu devrais le tester parce que les vidéos immersives, peut-être les autres solutions le font, mais t'es dans la vidéo, en fait.
Qu'est-ce que tu as vu comme
vidéo ?
C'est
la première fois que tu essayes ?
Ouais.
D'accord, c'est pour ça. Mais...
Oui, mais je ne pourrais jamais...
Cette sidération, je l'ai eue il y a 6 ans, avant d'entrer chez Facebook.
Peut-être, mais je ne pourrais plus jamais revenir en arrière. C'est-à-dire que...
Je vois ce que tu veux dire.
Comment tu peux voir des vidéos bloqué sur un écran comme ça. À partir de, quand tu vis l'expérience d'être dans la vidéo, t'en as des frissons. Moi, je voyais, il y avait une vidéo où voyant une fille qui faisait du slackline ou des rhinocéros qui venaient vers toi, t'as carrément peur que le rhinocéros. Tu vois, quand tu regardes des films au cinéma ou avec des lunettes 3D et tu vois de la 3D, ben c'est ça en beaucoup 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 mieux. Parce que la qualité, c'est du 4K, tu vois une qualité quasiment parfaite, et t'es dans la vidéo, tu peux tourner. C'est-à-dire, par exemple, quand je vais filmer ma fille prochainement, je vais les filmer automatiquement avec la solution des Vision Pro. Je
parce qu'avec l'iPhone Pro,
tu peux le faire.
Tu peux faire des vidéos immersives compatibles avec le Vision Pro.
Exactement, et j'ai même commencé à regarder hier sur Internet, est-ce que je pouvais acheter une caméra professionnelle qui permettait de filmer avec cette technologie. Parce que je me dis, dans 10 ans...
Ça sera des souvenirs incroyables.
Mais c'est imbattable. Par rapport à un écran plat, totalement imbattable. Dans 20 ans, j'ai envie de voir l'anniversaire de ma fille, je suis dans la vidéo avec elle. C'est de la folie.
C'est peut-être la killer app, enfin l'une des rares killer apps.
Ouais, peut-être.
Du Vision Pro, non, Jérôme. Et après, on redonnera la parole
à Lucas. C'est intéressant, vos deux points de vue, parce que vous êtes aux antipodes. Alors, l'un qui découvre la VR à travers le Vision Pro,
c'est ça.
Et donc, il y a quand même l'effet waouh. Et Lucas, qui connaît ça sur le bout des doigts, qui est déjà passé à autre chose.
Oui,
et
mais
qui a déjà
moi, j'ai pas testé sa solution.
Oui, mais c'est pas une question.
Et lui, il a pas les testé.
Mais c'est pas une question de solution, parce que c'est assez proche, en réalité.
Oui.
C'est quand même très proche.
Tu prends le Meta Quest Pro qui est sorti il y a un an à peu près il est en dessous du Vision Pro, mais tu as quand même la même expérience, même si tu vois un petit peu plus les pixels, etc. Mais tu as ces vidéos immersives aussi.
Tu vas dans d'autres pays, dans des villes, etc. Tu es au milieu de la place, c'est magique, c'est génial. Mais pour revenir au fait que le Vision Pro fasse un bide ou un pseudo bide, je pense que en fait il y a plusieurs choses. D'abord, est-ce que c'était pas prévisible? Parce que on savait que ce produit-là était un produit de niche, pas destiné à tout le monde, pas abouti,
très cher,
pour plein de raisons, etc. Deuxièmement, il y a une chose, c'est qu'Apple a pas vraiment fait tenir la mayonnaise. Apple ne parle pas, ils disent rien. On aurait pu s'attendre à des petites annonces complémentaires, des petits trucs pour relancer l'intérêt. C'est calme plat. Ils ont jeté le truc et maintenant débrouillez-vous. Et puis il se passe plus rien. Donc la balle est dans le camp des utilisateurs
et des développeurs.
Et des développeurs. Et troisième point. Pour avoir discuté avec des gens qui, eux, l'utilisent régulièrement, je pense notamment à Nicolas Lelouch de Numérama, qui est venu ici en parler, et je discutais de ça avec lui. Il a fait une vidéo assez intéressante il n'y a pas longtemps, où il montre comment il joue à plusieurs avec deux autres copains qui ont des Vision Pro, et ils sont dans la même pièce, ils ont le personnage en face, assis à la même table, etc. Et ça, c'était la promesse, quand même.
T'as entendu parler de ça ?
C'est magnifique.
Parce que c'est vrai que Zuckerberg l'évoquait, mais... d'une manière beaucoup plus brouillonne, on va dire, parce que là, en fait, c'est ton persona. Le Vision Pro arrive à scanner ton visage et à le restituer en réseau.
En réalité augmentée. À la moitié du.
Et donc,
tu as que le buste et la tête.
Imaginons que voilà, on fasse cette émission chacun à distance. Eh bien, les téléspectateurs, les personnes qui nous regardent à la télé ou sur leur smartphone, verraient ta tête.
Oui, mais ça, c'est pas tout à fait au point. C'est-à-dire, j'ai vu juste sur les vidéos.
La représentation n'est
pas suffisamment bien pour que tu aies l'impression réellement de parler avec la personne, quoi. Ça, c'est vrai que c'est une faiblesse.
Meta le faisait, mais c'était des petits bonshommes. C'était très cartoon.
En production, oui. Je vais faire l'ancien de la VR. Moi, j'ai visité d'abord sur cette notion sur les murs chez Oculus avant que ce soit Meta. Quand moi je suis rentré et que ça s'appelait encore Oculus, il y avait écrit Defy Distance. La mission, c'était de défier la distance, être avec les gens quand on ne peut pas être avec les gens. Donc, le narratif, l'objectif, tout ça, la raison d'être, c'est exactement la même.
Monsieur, mais moi j'ai vu ça même avant. J'ai vu Palmer Luckey qui faisait la démo CES dans un petit placard.
Exactement. Non, mais exactement. Il y avait avant qu'il rentre sur le parking avec un tank, il y avait un mausolée Palmer Luckey qu'ils ont enlevé ensuite. Mais donc, enfin, l'intention stratégique.
Génial,
est la
ce
même.
Gars a 18 ans, il a vendu Oculus, quoi. C'est
maintenant, il fabrique des armes.
Ouais. Ouais.
C'est fou. Hein.
Il a compris où était l'arme.
l'intention stratégique, c'est la même. Le spatial computing, l'immersive computing, le next computing platform. Si vous prenez tous les narratifs depuis 2017, on va dire, depuis l'acquisition de Meta, c'est les mêmes intentions. Ça travaille sur des avatars réalistiques, etc. Tout ça est exactement la même chose.
Après, il y a la technologie qui progresse.
La technologie progresse, mais lentement.
Lentement.
Et ce sont des changements. Donc, on a des différences marginales. Donc, c'est pour ça que j'ai passé, parce qu'un pass-through haute définition, j'en ai essayé sur un prototype. Je sais ce que ça fait. Je marchais dans le bureau avec. J'ai des vidéos de moi en train de marcher sur le bureau, de me faire un café chez Facebook avec un pass-through. J'ai l'impression. Donc, ça existe déjà.
Tu veux dire par là que. En labo, chez Meta, quand tu y étais, le Vision Pro existait finalement avec des technologies quasi équivalentes.
Il y a plusieurs protos, un qui sert à gérer la problématique de la lumière, l'autre de l'antenne, l'autre du poids. Enfin, c'est la caverne d'Ali Baba, Seattle là-bas. Mais d'ailleurs, Mark Zuckerberg avait fait une vidéo où il montrait tout ça. Donc, j'en parle parce que ça n'est pas un secret. Zuckerberg en a parlé. Donc tout ça, ça existe. Mais ce qui est sorti de la part d'Apple, c'est un dev kit. C'est vraiment un truc pour les développeurs, c'est pas un truc pour les utilisateurs. Le fait qu'ils ne donnent pas de signaux, mon interprétation, c'est parce que les taux d'engagement sont catastrophiques et qu'ils y sont pas habitués. Et moi, il y a
C'est sûr que ça va leur changer de l'iPhone.
Il y a quelque chose de stratégique, en fait, dans le Vision Pro qui me pose question. La raison pour laquelle Meta fait un casque, et on va parler de PinAI tout à l'heure, et c'est la même raison, c'est la déintermédiation de Apple et Android. En gros, Meta est obligé de faire un casque où tu peux faire la même chose que le téléphone, plus d'autres choses.
Parce qu'ils n'ont pas de smartphone.
Parce qu'ils n'ont pas... Ils ont la dépendance à iOS et Android qu'ils détestent, donc ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Ils ont une dépendance stratégique insupportable à long terme. Et donc, ils sont obligés de faire des devices, des outils qui soient capables de remplacer et non pas d'incrémenter. Donc, pas d'accessoires. PinAI, c'est la même chose. Eux, ce qu'ils te disent, c'est ce dont tu n'as pas. Je suis désolé d'anticiper un peu, mais stratégiquement, c'est la même chose. C'est tu n'as pas besoin d'application. Une seule application, c'est mon interface AI. En fait, tu n'as plus besoin de toutes tes petites tiles avec tes applications Uber, etc. Tu fais tout à travers une conversation. Donc, c'est la d'intermédiation. Apple n'a pas ce problème. Apple, avec la Watch, l'Apple Watch, c'est un incrément d'usage par rapport au téléphone. Qui fait des trucs pas mal d'ailleurs quand on a besoin d'aller quelque part, sortir son téléphone 17 fois de sa poche chaque fois qu'on tourne de rue et regarder sur sa montre, ça enlève beaucoup de friction. D'ailleurs moi ce qui m'a étonné c'est que
faire du sport c'est top hein.
Pour faire du sport c'est que le
ça apporte une friction si je puis me permettre par rapport socialement. Je trouve. Parce que il y a plein de gens qui, tu es en train de discuter, ils ont une vibration, ils regardent leur montre pour lire leur SMS.
C'est vrai que c'est pas encore entré complètement
dans les mœurs. Non, c'est pas entré dans les mœurs.
10 ans, 15 ans après la sortie de la première Watch, tu te souviens qu'on parlait de ça
à
l'origine.
Évidemment.
Et effectivement, c'est encore un truc qui socialement n'est pas accepté.
On s'éloigne un peu du sujet, mais c'est vrai que c'est un produit qui est pas forcément bien accepté dans l'entourage quand tu es dans une discussion, tu vois.
Parce que là, on est en train de discuter.
Si tu sortais ton téléphone, ce sera acceptable.
Non, mais tu sors pas ton téléphone.
Ouais.
Ton téléphone, il est dans un coin, tu es concentré. Mais là, tu es concentré dans ta discussion. Là, c'est tellement tentant, tu vois, tu as simplement à faire ça parce que tu as reçu une vibration qui t'indique une notification. Et c'est dérangeant, je trouve.
L'acceptabilité sociale, cette problématique-là, sur les casques VR, alors tu parlais de ta petite fille, d'accord, tu auras des souvenirs incroyables, mais le jour de l'anniversaire de ta petite fille, tu porteras un casque horrible Apple et tout le monde se demandera mais qu'est-ce qu'il fait ?
Pas du tout. Mais non, puisque
tu le fais avec le téléphone.
Mais non, tu le fais avec le téléphone. C'est justement pour ça.
Avec le 14 Pro, et Max, tu peux filmer des vidéos compatibles Vision Pro.
J'ai dit une bêtise. Je dis ça parce qu'il y a un des clips d'Apple.
Oui,
dans lequel il filme avec son casque
et beaucoup de choses.
C'est pour ça que j'ai même regardé hier soir. Si moi j'ai un appareil photo pour filmer ou prendre des photos vraiment en professionnellement, et je voulais voir s'il y a une technologie compatible avec mon appareil photo haute qualité pour filmer avec cette techno. Mais globalement, le défaut que je vois en tout cas sur les Vision Pro, c'est finalement le concept même de ce produit, c'est que c'est un produit très solitaire. Et donc, là, ça va rendre tous les gamins.
Absolument.
Parce qu'il y a une vidéo justement immersive où t'as Alicia Keys qui chante devant toi. T'as l'impression d'être dans le studio à côté d'elle et qu'elle chante pour toi. Et donc, les gamins, quand les vidéos live de tous les influenceurs du monde entier vont être sur leur yacht et vont se mettre en live et vont partager ça, et que les gamins, chez eux, pourront avoir les lunettes et être à côté de l'influenceur sur le yacht, dans le concert, etc., bah, ils auront une vie plus fun virtuellement que dans la réalité.
Ils sont plus à côté de leurs ouais. parents, de leurs
parents. Ça, c'est un des défauts.
Tu as tout à fait raison. Et ça, ça va même au-delà du hardware. Et c'est un problème qui est déjà perceptible avec l'ultra-personnalisation que va permettre l'intelligence artificielle, etc. Et on va vers effectivement une espèce d'univers où chacun aura son petit univers. Et ça va même encore plus loin. Parce que si là-dessus vous mettez une petite couche de post-vérité, de deepfake, etc., c'est tellement bien d'être dans un monde coupé des autres, avec que des gens qui te disent, avec des avatars qui te renvoient une très belle image de toi, avec des influenceurs virtuels qui te racontent des conneries, mais ce sont des conneries auxquelles tu crois, donc t'es rassuré, et voilà.
Si t'as envie que ce soit vrai, c'est vrai, c'est ça le problème.
Ouais. Mais d'un côté, TikTok, c'est déjà ça. Hein.
Bah, c'est déjà ça. Je veux dire, mais là, c'est des stéroïdes pour TikTok. Hein.
C'est ça.
Immersif plus VR, plus AI.
C'est de la folie. Aujourd'hui, t'imagines tous les gamins, le temps qui passe sur un petit écran comme ça, et ils sont tellement happés alors que l'écran il est plat, il est minuscule. Demain tu dis, en fait, si c'est pas comme ça, c'est 360 et ils sont à côté de la star, ils peuvent la regarder dans les yeux et à terme ils pourront même payer un petit peu pour lui adresser la parole, tu vois ce que je veux dire? Alors, donc, juste, ça va être un truc de fou, quoi.
Juste pour revenir, parce que j'allais quelque part et allez, vas-y, je pense que c'est important. Donc stratégiquement, Apple n'a pas besoin d'inventer un casque qui fasse la même chose que le téléphone et plus, il pourrait avoir un casque qui soit complémentaire au téléphone. Ce qu'ils n'ont pas fait, ce qui est extrêmement étonnant. Moi, je pense qu'il est possible qu'il y ait des pivots technologiques chez Apple, parce que le smartphone, c'est l'étoile noire de la tech. C'est tellement performant que pour faire mieux, il faut être incroyablement fort et ça prend extrêmement longtemps et des milliards d'investissements sur 10 ans. Donc pendant très longtemps encore, on aura cette étoile noire qui a un centre de gravité très fort et qui attire toutes les innovations vers elle. Et ça, c'est inéluctable. C'est impossible d'en sortir de ce qu'on appelle step function en anglais, du jour au lendemain. Et donc, pour moi, Apple est en train de se poser les bonnes questions, qui est-ce que j'ai besoin d'un truc complètement immersif comme ça? Peut-être oui, ça c'est un cas d'usage, mais l'autre c'est si j'ai des lunettes plus légères, genre Ray-Ban Meta, mais quand je suis dans la rue, elles me donnent la direction, et qu'elles ont des écrans plus low-res, etc. Bah là, j'enlève de la friction, j'ai mon iPhone qui est valorisé, c'est de l'accessoire, c'est complémentaire, je peux utiliser le computing power, la batterie de mon iPhone, donc le truc peut être plus léger, utilisable. Donc, à mon avis, toutes ces questions-là sont en train d'être posées.
Mais quand on écoute Tim Cook, en fait, le Vision Pro, c'est presque le cousin du Mac, plutôt que l'iPhone.
Oui, c'est ça.
Parce que lui, il y a cette notion d'informatique spatiale, hein, Jérôme. Il a dit, l'idée, c'est de pouvoir, à terme, en tout cas, c'est ce que j'ai compris, c'est que le Vision Pro remplacerait à terme le Mac.
Ben en tout
plus
cas,
que l'iPhone.
Mais c'est là où c'est intéressant, c'est la dimension travail, espace de travail, en fait, poste de travail, en fait. Et ben là encore, pour citer, c'est Nicolas qui me disait que lui, il passe de plus en plus de temps à faire des sessions de travail sur son Vision Pro. Mais il y a quand même des limites. Au bout d'un moment, il n'en peut plus, il a trop chaud, c'est trop lourd, tout ça.
Justement, j'ai testé ça hier. C'est vrai que, comme tu dis, il y a des moments, si tu l'as pendant des heures, etc., ça fatigue et c'est trop chaud. Mais c'est vrai que quand tu passes toute la journée recroquevillé sur ton petit écran d'ordinateur, c'est fatigant aussi. C'est agréable de dire, ben, mon écran d'ordinateur, je me relaxe dans mon fauteuil, il fait du coup 10 mètres par 10 dans mon salon.
T'as plein d'écrans.
T'as un écran gigantesque et je garde le clavier de mon ordinateur pour écrire dedans. Et quand je suis dans le train, par exemple, je peux écrire sur un écran gigantesque et les gens à côté de moi, ils voient un écran noir.
Ça, c'est vrai, mais tu n'as pas besoin d'avoir toutes les capacités que tu as sur le casque pour faire ça. C'est vrai qu'en utilisation complémentaire, 45 minutes par jour, moi j'en ai fait des meetings en VR dans toutes les solutions.
Ouais, ça fatigue.
Au bout d'un moment,
t'étais obligé de les faire en VR parce qu'autrement tu te faisais taper sur les doigts.
Parce que si on vend des choses, il faut savoir comment ça marche. Ouais. C'était incroyable, sidérant. Et puis au bout de 3-4 fois, tu dis putain.
Vous savez quoi, les amis, c'est pas pour nous ce truc-là, c'est pour les
prochaines générations.
Les prochaines générations qui seront mutantes.
Peut-être.
Et qui seront beaucoup plus adaptées à ces choses-là.
Après, je pense qu'il y a une date qui va être importante, c'est la prochaine WWDC d'Apple. Je n'ose pas imaginer qu'Apple propose une mise à jour du Vision Pro avec peut-être de nouvelles fonctionnalités, avec peut-être aussi la signature d'accord avec ou des diffuseurs, enfin des broadcasters ou d'applications. C'est un marathon en fait. C'est presque méchant en fait. Alors bon, c'est sympa notre discussion, elle est passionnante vraiment. Mais le fait de commencer à juger un produit qui vient juste de sortir, il a à peine 2 mois d'existence. Alors que pour Apple, c'est un produit dont la roadmap est sur des années. Non, enfin je sais pas.
Oui, après la
même
question,
eux, je pense qu'ils ont même pas la vision vraiment précise de ce qu'ils vont en faire dans 3 ans.
C'est plutôt ça. La question, c'est ok, si c'est ça, alors pourquoi le positionner comme du spécial computing un jour et puis comme du B2B le lendemain? C'est-à-dire qu'on a un flottement stratégique. Il est pas. Si on savait tout ça avant de le sortir, pourquoi est-ce qu'on l'a sorti comme ça, dans ces conditions, comme un produit de grande consommation, dans des Apple Store, avec des rendez-vous, avec des gens? Ça n'a pas beaucoup de sens, parce que le produit n'était pas adapté à ce genre de lancement et aux cas d'usage qui ont été décrits. Même si c'est un excellent produit, incroyable technologiquement, il n'était pas adapté à la façon dont il a été lancé. C'est une erreur de go-to-market, ce qui est extrêmement rare chez Apple.
Ils en ont vendu combien?
10.
ils ont fait un run de 150 000, 200 000, on ne sait pas, mais quelque chose comme ça. Après, on a parlé des retours. Bon, surtout, il faut savoir qu'aux États-Unis, les clients, les consommateurs retournent beaucoup plus. Donc,
ils ont 15 jours, je crois, pour retourner.
Ouais, puis ils sont consuméristes, alors ils retournent. Ouais. Donc ça, c'est plutôt standard par rapport au standard du marché. Hein, c'est pas.
Et puis rappelons qu'il n'est pas encore disponible en Europe. Hein. Donc, tu me disais tout à l'heure en antenne que tu voulais en commander. Il va falloir que tu passes aux États-Unis, quelqu'un te les ramène. Il faut bidouiller aussi son compte Apple pour pouvoir les faire fonctionner.
J'ai trouvé une technique, donc.
Bah oui. T'as Chris, le bidouilleur. Non, mais c'est d'ailleurs étonnant hein, qu'Apple réserve encore ce produit au marché américain. Il pourrait commencer à inonder un peu le monde, non?
Je pense que ça coûte trop cher. Et ce qu'il faut voir, c'est que si vous avez que 120 000 ou 200 000 devices et dont le taux d'utilisation est une fois par semaine, aucun développeur majeur de contenu ne va investir. Ça coûte 400 millions de faire un jeu en VR. Qui va faire un jeu à 400 millions? Ouais, c'est ce qu'on nous disait chez Meta.
Des adaptations, des choses comme ça.
400 millions,
Des AAA games, je suis arrivé en 2017-2018, on devait en avoir en 2019, on devait en avoir en 2020, 2021, on est en 2024, il n'y en a toujours pas. Pourquoi? Parce que Blizzard, Activision, pour développer ça...
ils n'ont pas envie de...
La base installée n'est pas assez grande.
Mais Meta n'est pas prêt à investir.
Il y a beaucoup d'investissements. La base installée la plus forte aujourd'hui, c'est celle de Meta avec le Quest. T'as essayé le Quest 3, t'as essayé le Vision Pro. Moi, j'ai essayé le Quest 3 aussi. Ça fait la même chose pour un septième du prix. Hein. Donc, là, on est sur au moins un niveau de friction financière pour les acquéreurs qui est bien moindre. Donc, peut-être que ça a plus de chances.
C'est bien, il y a déjà une concurrence.
Ouais, c'est clair. Bon, écoutez, voilà ce qu'on pouvait dire sur le Vision Pro. On se donne rendez-vous pour la WWDC.
Dans 2 mois.
Ouais, c'est ça. Ça va vite arriver. C'est 10 juin, je crois.
Tous les 2 mois.
On fera un petit point pour voir si justement quelques nouveautés auront été annoncées. On revient dans un instant. Ça passe vite, dis donc. Quasiment 20h30. On va retrouver l'info éco. Et puis là, on parlera d'un vrai échec. Enfin, un vrai échec. En tous les cas, pour la sortie. Bah, justement, on va l'évoquer. C'est ce fameux AI Pin, un produit étonnant. Un peu ovni, qui a été présenté, qu'on avait évoqué au CES de Las Vegas. Il n'avait pas été présenté au CES, mais tout le monde en parlait. Hein, c'est ça qui est assez étonnant.
Et on l'a vu à Barcelone.
Et on l'avait vu à Barcelone. Tu avais fait une petite vidéo aussi, je crois. Et il se trouve que ce produit est, ça y est, disponible aux États-Unis. Il a été confié à certains journalistes. Le résultat est alarmant. On en parle après l'info éco. À tout de suite. Merci d'être là.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
20h35, nous sommes de retour et Taï Chris est toujours avec nous pour débriefer l'actu. Jérôme Colombin et Lucas Perraudin, après avoir évoqué longuement l'avenir, le destin du Vision Pro, on va s'intéresser à un autre produit, parce que c'était effectivement l'un des objets chouchous de la Silicon Valley qui était censé peut-être un jour remplacer nos smartphones, rien que ça. Mais on se rend compte que c'est pas évident. Hein. Les AI-Pin, ce badge connecté bourré d'intelligence artificielle, alors il vient de sortir, mais les premiers retours sont absolument désastreux. Anthony Morel nous faisait le tour justement des avis. C'était ce matin dans Good Morning Business.
Ça va être l'un des plus gros flops technologiques de ces dernières années probablement. Je vous cite les titres des chroniqueurs tech US qui ont pu le tester pour l'instant. Le pire appareil que j'ai testé de ma vie, dit Marcus Brownless, qui est le YouTuber tech le plus influent du monde. Il a des millions d'abonnés. En général, c'est pas très bon signe. The Verge cite tech de référence. Le seul problème avec cet appareil, c'est que ça ne marche pas. C'est-à-dire que ceux qui ont commencé à le tester disent que, un, c'est lent. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous lui demandez quelque chose et le moment où il répond, il y a parfois jusqu'à 10 secondes, temps de latence absolument insupportable, si c'est censé remplacer votre téléphone. Quand même, c'est lent et en plus, c'est pas fiable. C'est-à-dire qu'en plus, vous lui posez des questions, il vous répond n'importe quoi, il analyse son environnement, ça fonctionne une fois sur deux, donc pas génial non plus. Problème de surchauffe de batterie, pas incroyable pour un appareil que vous portez sur vous. Et puis le prix qui est quand même jugé prohibitif, $700 plus un abonnement de $24 par mois pour la connexion Internet, ça fait quand même cher. Alors, est-ce qu'il faut tout enterrer ? Non. Moi, je pense qu'il faut quand même garder l'idée d'abord que ce sont des pionniers. Il faut avoir le courage de lancer un produit comme ça qui sort complètement des sentiers battus. Et ça va probablement servir quelques-unes de ces briques technologiques dans les futurs appareils qui, effectivement, remplaceront le smartphone, qui n'est pas l'alpha et l'oméga de la technologie, qui sera remplacé un jour. Est-ce que ce sera par un petit boîtier ? Est-ce que ce sera par des lunettes ou des lentilles intelligentes ? On n'en sait rien pour le moment. En tout cas, ce sera probablement pas l'AI Pin.
Voilà. Bon, c'est pas... C'est pas joli, joli. Hein. Alors, on s'en doutait plus ou moins. Hein,
moi, je suis super triste.
C'est vrai, t'es triste ?
Oui, parce que ce truc-là, alors j'y croyais pas. Hein, mais j'avais envie d'y croire. Et voilà, c'était un...
Petit gadget parti trop tôt.
Voilà. C'est vachement ambitieux. Et puis, la démarche était intéressante. Et puis, c'était une manière de dire, bah, c'est pas parce que le smartphone fait tout et qu'on est les plus heureux du monde avec nos smartphones que ça va s'arrêter là. Il y a encore des voies à explorer, etc. Mais bon, voilà. Après, les critiques, moi, je veux bien... La critique principale, c'est ça résout aucun problème technologique ou aucun besoin, en fait. Ça répond à aucun besoin qu'on ait. Quoi que ça se discute. Mais en revanche, il y a des critiques qui, je trouve qu'elles sont pas, sont moyennement justifiées, de dire l'autonomie est pas bonne, le temps de réponse, etc. Alors oui, si c'est considéré comme un produit de consommation immédiate, c'est un souci. En plus, il coûte cher, il coûte $700. Hein.
Oui. Mais en plus, il faut un abonnement T-Mobile.
Voilà. Mais si on se dit, ouais, c'est comme le Vision Pro, l'idée c'est d'inventer un nouveau truc, d'ouvrir une nouvelle brèche, etc. Ben, on va pas s'arrêter sur des problèmes d'autonomie ou de connectivité. Enfin,
on est au-dessus de ça.
On est au-dessus de ça.
Ou de fonctionnement.
Ou de fonctionnement.
Ouais, ce qui est un peu plus problématique quand même. Hein. Juste un mot sur l'histoire de ce produit qui a été, fondé, créé par des anciens d'Apple. C'est ça aussi qui avait apporté...
Et de Google aussi, je crois.
Imran, c'est l'ancien chief designer d'Apple.
Voilà.
En 2016, il part. Pour la petite histoire, je l'avais contacté, je me suis dit, il part, il va peut-être faire quelque chose d'intéressant, je vais voir, et il m'a snobé, il m'a jamais répondu.
Ah bon, bon
voilà, il est puni.
Je l'avais croisé une fois.
Là, si donc, tu rappelles, il va pas snobber.
Tu aurais pu être peut-être CEO de l'AI Pin. Bon, là, en ce moment, tu serais pas en forme. Hein.
Mais ils sont bien fundés, je me fais pas de soucis pour lui.
Et donc, ce gars-là est parti d'Apple, tu disais, en 2016. Et c'est ce qui a apporté aussi un certain crédit à ce produit-là. Parce que c'est vrai qu'en général, bon, voilà, quand il y a l'aura d'Apple, on se dit, bah, ouais, tiens, il a peut-être, il sait comment ça fonctionne, etc. Et, bon, visiblement, c'est pas bon.
En fait, il faisait quoi ? Il était jardinier chez Apple, c'est ça ?
Il était chief design.
Ah oui, quand même.
Non, c'était pas n'importe qui.
Ouais, director of design. Ouais. Non, il était.
Le produit est.
Mais je crois que sa femme. Il n'a pas confondu la boîte avec sa femme.
Si, exactement.
Et sa femme était chez Apple aussi, je crois.
Ouais. Ils avaient tous les deux 20 ans d'Apple. C'était des
pionniers. C'est
incroyable. Ouais. Incroyable. Lucas, est-ce que tu peux analyser un peu cet énorme échec pour l'instant, en tout cas, après peut-être.
Un énorme échec, oui, ce sera un échec, c'est sûr. Parce que, encore une fois, c'est la même problématique qu'avant. C'est l'étoile noire, le
smartphone.
Il y a de la friction. Le smartphone, ça fait des choses incroyables, des super vidéos, caméras. Moi, je ne tape plus rien. Quand je dois taper sur mon PC, je ne le fais pas. Je dicte à ChatGPT parce qu'il reconnaît hyper bien ma façon de parler. Donc, dans la journée, j'ai regardé les stats, il y a à peu près 1h15 par jour où je parle à ChatGPT pour qu'il fasse le texte à ma place.
Et donc, c'est quoi ? C'est des mails ? C'est quoi ? Qu'est-ce que tu lui dis à ChatGPT ?
Tout. Je lui dis, fais un mail. Là, on doit refaire le site de la boîte, on est plusieurs. Je lui dis, écoute, on a plein d'idées, ça, ça et ça. Organise-moi ça, machin. Je lui parle à moitié en anglais, à moitié en français. Il comprend, puisque bon, moi, je parle du franglais toute la journée. Il comprend quand un mot, alors que Google Speech ne le fait pas. Donc, tout ça pour dire que, et ça, c'est des fonctionnalités de cet objet à la base, qui est, j'ai une conversation. Donc, tout ça, c'est fait par le téléphone de meilleure manière. La friction du téléphone, c'est qu'il faut le sortir, lui parler. Et là, ça a enlevé cette friction-là, c'était toujours là. Mais encore une fois, un accessoire sur un iPhone ou sur un téléphone Android, ça va faire 200 fois mieux que ce truc-là. Il faut payer $700 pour l'avoir, il faut payer $25 par mois pour pouvoir s'en servir. Donc 250-300 dollars par an. Qui va mettre $1000 la première année pour un truc qui marche pas.
Moi, ouais. Ouais, ça me fait un peu peur pour le Rabbit aussi, hein, qui va sortir et qui en plus, alors lui est complètement aspiré par ton étoile noire, parce que en fait, ce produit-là, si tu réfléchis bien, un smartphone peut le faire via des applications.
C'est un
sous-smartphone.
Quand j'ai vu le Rabbit, je me suis justement dit, mais il devrait sûrement ce que va annoncer Apple au prochain WWDC, c'est simplement de dire une application qui interagit avec toutes les autres applications,
ouais, bien sûr.
Qui te commande ton Uber, ton Uber Eats, etc.
Piloté par le smartphone,
en fait.
C'est la proposition de valeur, c'est ça. C'est l'intermédiation.
C'est peut-être ça
choisir
le prochain...
des apps, c'est trop dur, alors on a une seule app.
Hein, Lucas, c'est peut-être ça le prochain step, en fait, la prochaine innovation. Le constructeur qui arrivera à proposer cette promesse,
bah en fait,
c'est génial.
C'est très facile à faire. C'est juste une problématique d'accès aux applications. Le truc, c'est que si Apple, ils disent, et avec leur puissance, ils peuvent dire, ou Google, ils peuvent dire, écoutez, désormais, toutes les apps qui sont chez moi, vous avez l'obligation de pouvoir me donner en quelque sorte une backdoor pour
pouvoir
commander, etc.
Oui, mais bon.
Et c'est réglé.
Oui,
mais ils le feront pas. Ils vont vouloir chacun garder leur précaré.
Évidemment.
Et c'est ça le problème.
Là, c'est la bataille de business model. Là, on est dans la bataille économique, quoi.
Non, mais tu prends l'exemple. Admettons qu'Apple sorte ce truc-là. Voilà, pour le prochain iPhone. Je dis n'importe quoi, hein. Mais imagine Uber. Uber, aujourd'hui, tu vas sur l'appli. Quand tu vas sur l'appli, il y a des petites promos. On te propose aussi Uber Eats. Il y a plein de choses qui font que Uber essaie d'augmenter son business. Demain, tu n'as plus qu'à dire, appelle-moi un Uber pour que je rentre à la maison sans lancer l'application. Mais c'est terrible pour Uber.
Ils sont ramenés au rang de fonctionnalité.
C'est un peu comme les opérateurs télécoms à qui t'as enlevé les box télé et qui aujourd'hui ne servent plus que de tuyaux finalement.
C'est un peu comme dans l'automobile, les sous-traitants automobiles qui sont interchangeables derrière la marque automobile. On prend un phare Valeo ou un phare machin chinois.
C'est ça.
Alors oui, l'obstacle pour que ceci arrive chez Apple, c'est la position monopolistique.
Oui,
parce que s'ils ont tout le hardware plus toute l'interface software et que les autres puissent plus monétiser, bon là Zuckerberg il pète un câble. Il va avec une batte de baseball à Cupertino là, parce que déjà qu'il supporte pas sa dépendance et toutes les contraintes que met Apple sur les données, etc. Là je pense qu'on sera en guerre, donc je pense qu'il y a très peu de chances que ça arrive avec Apple pour cette raison là mais effectivement il y a deux écoles dans la Silicon Valley pour la disruption, donc pour passer au-delà du smartphone, c'est des hardware qui font donc des casques immersifs, etc., la réalité virtuelle, réalité augmentée avec l'operating system et les apps qui soient nativement dessus, donc pas de l'iOS, pas de l'Android, et les gens qui
donc
disent...
Donc déconnectés du téléphone,
ce qu'on appelle standalone, pour encore une fois parler bien français, mais qui sont donc des appareils à part entière avec leur écosystème hardware et software. Et il y a la déintermédiation par l'intelligence artificielle qui est, je vais mettre une couche, alors une interface, ça peut être un pin, ça peut être un rabbit, qui va faire en sorte que tu ne sortes plus jamais ton téléphone de ta poche. Parce que je vais lui parler, puis il va faire tout ce que j'ai besoin de dire. Il y a la problématique de l'écran, parce que se projeter un truc sur la main, c'est illisible. Mais ça, c'est les deux écoles.
À Barcelone, il y avait une personne de la société là, qui faisait les démos, et qui faisait notamment la démonstration de prendre une photo, et ensuite elle montrait la photo dans sa main, je ne te raconte pas ce qu'on voyait, quoi, en monochrome. Ouais. Et c'est vrai que, et je me souviens lui avoir posé la question, d'ailleurs, sur le fait que à quoi ça sert, surtout quand on a déjà une montre connectée, comme on le disait tout à l'heure, la montre qui parfois dans certains cas peut entièrement remplacer le smartphone, surtout si tu prolonges ton abonnement, ton forfait, etc. Et là, c'est en gros, c'est pour ceux qui n'ont pas de montre, quoi. Et puis sauf que la montre n'a pas d'appareil photo. Là, il y a un appareil photo, ça fait des vidéos, etc.
Mais il faut toujours ce qu'ils essaient de faire, c'est qu'on n'est pas à faire ça. Sortir son téléphone, c'est de la friction. Donc tout ce qui va, le pari de toutes ces boîtes-là, c'est de dire, je vais être plus malin qu'eux, je vais passer par-dessus cette friction-là et ça va attirer les utilisateurs. Mais la barre, elle est hyper haute.
La barre est haute et ils se trompent de bataille. La vraie difficulté aujourd'hui, c'est les dizaines d'apps qu'on a dans nos téléphones. C'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as envie de faire quoi que ce soit, tu es obligé de créer plein de comptes différents. Celui qui simplifiera tout ce modèle, ça va quand même nous changer la vie.
Apple essaie, hein, avec, t'as vu les remplissages automatiques, trouver des mots de passe automatiques, etc., justement pour enlever cette friction.
C'est l'ambition du Rabbit, hein.
Et bien sûr,
c'est l'ambition du Rabbit. Voilà, il a présenté ça comme un OS, une espèce de méta-OS capable, grâce à l'IA, de faire tout ce que tu n'aurais plus à faire sur une appli.
La réalité, c'est que dans la journée, tu utilises 3 apps.
Ouais.
La plupart des jeux, enfin, deux réseaux sociaux préférés. Bon, nous, on est des geeks, moi j'utilise. Deux réseaux sociaux, une application de messagerie, et puis.
Mais tes mails,
pour commander, tes mails.
Bon, les iPin, je sais même pas
si. C'est pareil, il va au cimetière, avec, comme le Vision Pro, comme le Rami.
Non, alors,
quand
même, je pense que le Vision Pro a un destin un petit peu moins funeste.
Ouais. Un écosystème iPhone, Watch, AirPod. Donc je peux avoir des conversations, ça remplace tout ce que fait les iPin. La question, c'est est-ce que je peux sortir la caméra? Il manque plus qu'un petit, Ray-Ban-like, soit un truc là, et on a tout en 10 fois.
C'est intéressant parce qu'il n'y a aucune rumeur concernant une paire de lunettes Apple avec un peu de connectivité, choses comme ça.
Je pense qu'ils y réfléchissent.
Ils y réfléchissent, je pense. Si on parlait d'IA, tiens.
Ah, il y avait longtemps.
L'IA générative, parce qu'il faut savoir que les Français adoptent l'IA générative en masse. C'est intéressant. Malgré les problèmes de sécurité, de confidentialité, bien voilà, on est de plus en plus nombreux. On vous a préparé d'ailleurs quelques petites infographies si vous êtes avec nous à la télé pour bien vous expliquer tout ça. Par exemple, le nombre d'utilisateurs a bondi de 60% sur un an.
C'est étonnant. Hein,
concernant l'IA générative, c'est beaucoup quand même. Hein. Donc 48% sont encouragés par leur entreprise. Donc on voit que, alors après j'imagine que c'est certains métiers, hein, bien évidemment, qui sont vraiment très informatisés. C'est intéressant.
Super intéressant parce que moi j'avais l'impression qu'au départ, quand ChatGPT est apparu, c'était un peu l'inverse. Et alors, pour parler d'un métier qu'on connaît qui est le journalisme, dans les médias, c'était la frilosité absolue. Hein. Pour ne pas citer un très grand groupe audiovisuel que je connais d'à peu près qui carrément avait fait passer le message « Vous ne touchez pas à ChatGPT !» C'était le truc interdit.
« Surtout pas !» !»«
Surtout pas !» Évidemment, tout le monde y allait en loose day, hein, bien sûr. Mais voilà, il y avait une espèce de méfiance, de peur, après parce qu'il y avait des dérapages, hein. C'est sûr que si on va sur ChatGPT pour chercher de l'information, surtout avec la version 3.5, on était sûr d'aller au casse-pipe. Mais bref, là effectivement, ce sondage, je trouve qu'il est super intéressant. En plus, alors sans surprise, c'est les jeunes apparemment qui sont les plus utilisateurs, qui sont les plus friands. Mais 78% des Français ont entendu parler au moins des IA génératives. Il y a déjà 35% qui disent qu'ils auraient du mal à s'en passer.
Ouais, intéressant. C'est un sondage que l'on doit à l'IFOP pour talent, en fait.
Ouais. Et la différence entre un produit qui apporte quelque chose, qui est prêt, et un produit qui n'est pas prêt. Il n'y a pas besoin de le forcer. Ils le mettent en ligne. Il y a 100 millions d'utilisateurs 6 mois plus tard. C'est ça qu'on appelle la disruption.
Bien sûr, parce qu'il apporte aussi
une vraie
valeur ajoutée. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est quelles sont les IA génératives les plus utilisées par les Français. Alors, bon, sans trop de suspense, ChatGPT, qui remporte tous les suffrages. 66% utilisent donc ChatGPT d'OpenAI.
La prime au primo arrivant, quoi.
Ouais, donc 11% la version payante. Ouais. C'est quand même beaucoup, hein.
C'est bien.
Donc ça veut dire que les utilisateurs se rendent compte de la puissance de la bête et sont prêts à donner 20 euros par mois pour avoir la version
si vous êtes
débloquée.
Cadre, agent de maîtrise dans une entreprise, je ne saurais que vous conseiller de dépenser 20 euros par mois. Ça vous rendra beaucoup plus performant que vos collègues dans l'entreprise.
Et c'est sans doute l'un des investissements au rapport qualité-prix les plus impressionnants
du
moment.
Vous avez accès à la même technologie que le Pentagone. Personne n'a une meilleure technologie d'IA dans le monde disponible.
Ça se discute. Garantie. Parce qu'il y en a d'autres maintenant. Il y a Claude, il y a.
Moi j'ai Claude, Gemini 1.5.
T'as Claude, le high level, là, le premium machin.
Non, pardon, j'ai essayé Mistral Big, le grand là.
Mais, ouais. Mistral Large.
Large. Gemini, depuis avant-hier, je l'ai en niveau Enterprise 1.5. Bon, bah, j'ai passé 2 heures dessus, puis je suis retourné sur GPT-4 parce qu'eux, ils font un training tous les. Donc,
mais après, c'est relatif parce qu'il y a un truc qui me frustre énormément sur GPT, c'est qu'ils l'ont bridé sur plein de sujets. Et du coup, il y a plein de choses que je cherche sur GPT parce que soit je veux réécrire un texte, et là, ça marche très bien, c'est nickel. Mais si j'ai envie de l'utiliser un petit peu comme un Google à chercher des infos. Et bien là, à chaque fois, j'ai « Ah ben désolé, on ne peut pas vous donner cette info. » Alors que s'il y a 6 mois, il me l'a donné très bien.
Va sur donc, ils Perplexity.
Perplexity, ça fait du search, ça marche très bien.
Ouais. Ok. En tout cas, sur Gemini, là, pour le coup, ça me permet, à chaque fois, je suis bloqué sur GPT, parce que, et ce qui est très frustrant, c'est qu'il y a 6 mois, ce n'était pas bloqué. La même info, je l'avais. Mm-hmm.
Oui, mais c'est pas un moteur de recherche, ChatGPT. Et ça, c'était vraiment, je trouve,
l'écueil principal. Oui, c'est un outil conversationnel qui, voilà.
Ce qui est Lucas. En train de... La révolution 2024 de l'AI, c'est ce qu'on appelle Agentic AI. Mm. Je ne sais pas si c'est déjà
les agents.
Sorti. Les agents. Donc, retenez un nom, c'est LangChain, qui est un logiciel en accès libre qui permet... d'aller chercher des GPT quand on en a besoin, d'aller chercher sa propre donnée pour l'informer quand GPT n'est pas informé et de personnaliser ça, de changer la façon dont on fait des queries pour réduire les hallucinations. En gros, ça fait du ping-pong. Je pose une question, elle est un peu ambiguë. Ça demande d'abord à GPT de poser 5 questions similaires à ma question pour recontextualiser et remettre tout ça dans le prompt derrière. En fait, il y a beaucoup plus de cadrage dans le prompt, donc il y a moins d'hallucinations. Nous, on déploie ça dans les entreprises. Vous avez une base d'entreprise, votre base produit, votre commercial veut savoir c'est quoi le type de vis dans la collection 1, 2, 3, 4, 5, GPT, il ne sait pas. On fabrique des cascades où il va chercher, on vectorise tout ça, on les met dedans, GPT regarde, il sort ça et il lui répond, eh ben, c'est, tu peux dire à ton client que c'est les vis 1, 2, 3, 4. Donc tout ça, c'est en train d'arriver très très fort, il y a plein de boîtes qui bossent dessus.
En fait, ça nourrit GPT-4 sur des sujets de niche qu'il ne connaît pas.
Ça fait de l'injection de savoir et de la réduction de savoir dans un autre sens, ça fait de la réduction de contexte, ça évite les hallucinations, qu'il ne te parle que du domaine dont tu veux parler, réduction de contexte, fine-tuning, et de l'injection de savoir avec le RAG, Retrieval Augmented Generation, ça va chercher ta propre donnée pour lui donner.
C'est avec ça que tu peux faire des programmer des applis mobiles de A à Z, parce qu'il va chercher toutes les briques, assembler toutes les briques ensemble, etc. Mais il y a une start-up qui a fait pas mal de buzz il n'y a pas longtemps, sauf qu'apparemment on n'a vu que des vidéos, on ne sait pas du tout ce qu'il y a derrière, je ne sais plus comment elle s'appelle.
Devine, oui, pour le développement.
Ça, mais il n'y a pas de réalité pour l'instant.
Non, mais Devine, c'est autre chose. C'est un copilote de coding. Et en gros, la proposition de valeur, c'était de dire vous n'avez plus besoin de vos codeurs. Quoi. Voilà. Donc ça, ce n'est pas vrai. Par contre, en faisant avec des codeurs plus durs... Aujourd'hui, un agent AI qui va chercher de la donnée... par exemple, ça ne fait pas très bien le calcul, ChatGPT. Mais si vous avez un programme de calcul, ça sait lui dire « Calcule ça et rends-moi le résultat et vous le redonnez. » Et l'intégrer ensuite dans le raisonnement suivant. Donc, c'est du raisonnement en chaîne, en gros.
Il devient méta-chatbot, quoi.
Mais ça augmente les humains. Ça ne remplace pas les humains, mais par contre, ça les augmente bien. De 40%, on va dire. Donc, ceux qui ne sont pas augmentés, ils courent moins vite, quoi.
Ça, c'est fou.
C'est clair. Tu utilises beaucoup, tu le disais, ChatGPT ?
Ah bah oui. Moi, tu sais, j'ai jamais été à l'école, donc pour écrire un texte proprement...
C'est vrai que tu fais partie de ces autodidactes qui ont réussi sans avoir...
Non, mais quand je dis j'ai jamais été à l'école, même pas une journée en maternelle quand j'étais gamin. Donc j'ai appris à la maison mes parents qui me faisaient des dictées. J'ai jamais été en classe, même pas gamin. Donc c'est vrai qu'en grandissant, j'avais toujours eu des lacunes en termes d'écriture. Je faisais des fautes d'orthographe, etc. Alors maintenant, avec les années, évidemment, j'ai appris. Mais c'est vrai que ChatGPT me sert facilement parce que tu as envie d'écrire un texte un peu plus formel. Tu économises 20 minutes de réflexion, quoi.
Extraordinaire. Et le prochain step, c'est cette intelligence artificielle, on va dire...
Générale.
Mm. Est-ce que tu la vois arriver en 2024 ou 2025?
Je suis pas assez fort en maths. À la fin, l'intelligence artificielle, c'est des maths et des computer science. Je sais bien comment les modèles actuels travaillent. A priori, c'est pas possible avec eux. Même si on en a l'impression, et Lequin, il dit que
d'après
non,
Lequin, c'est pas possible.
Il s'y connaît mieux que moi. Alors, le seul truc qui me descend un peu chez lui, c'est que Il est le pape de tout ça, il est l'inventeur de beaucoup de choses, mais je pense qu'il est très déçu de ne pas avoir été celui qui l'a opérationnalisé dans le monde, et ça se ressent un peu dans ses feedbacks.
Oui.
Mais bon, s'il lui dit non, c'est que c'est non. Hein, c'est...
Ouais, tu parles de Mark Zuckerberg qui en veut beaucoup à Apple, je pense que Yann Lequin en veut beaucoup à OpenAI et à Microsoft.
Il y a beaucoup de gens qui en veulent beaucoup, Google aussi en veut beaucoup certainement à
Google, OpenAI. Moi ça me fend le cœur parce que j'ai, Pixel, machin, l'écosystème Google, je pense que c'est le meilleur du monde. Mais Gemini ça marche pas, et à chaque fois qu'ils font une release j'ai l'espoir, c'est décevant.
On a l'impression que OpenAI
ça marche mais pas aussi bien.
OpenAI et ChatGPT ont une recette secrète, une espèce de sauce dont ils détiennent la recette, qui fait que ils sont arrivés à quelque chose de quasi parfait.
Ils ont l'avantage du challenger, c'est qu'ils ont droit à l'erreur. Ils ont mis un produit imparfait sur le marché. Si Google avait fait ça, on aurait dit, mais qu'est-ce que c'est ?
Exactement.
Si Google nous avait mis un produit qui a des hallucinations sur le marché, on n'aurait jamais accepté ça. Donc ils ont cette agilité, ce droit à l'erreur permanent.
Voilà, que Google ne peut pas se permettre d'avoir.
Alors Google, ça marche très bien. Vertex, tout ça, c'est des super... Les environnements ML, Machine Learning, TensorFlow, qui est la solution de Google, c'est incroyable. Et j'encourage toutes les boîtes du monde à regarder ça, parce que ça peut faire des choses.
Ouais.
Mais GenAI, Conversational AI... Pour l'instant, c'est décevant, je ne peux pas dire autrement.
T'as vu, on parlait du sondage, là, j'ai repéré un autre sondage avec un chiffre qui est intéressant aussi, mais bon, il date de l'année dernière, mais qui montre que les Français, contre toute attente, sont vraiment en phase avec l'IA et l'IA générative, parce que c'est un sondage de PwC qui disait que seulement 9% des salariés français craignent d'être remplacés par l'IA dans leur travail, alors qu'au niveau mondial, c'est 13%.
Ah oui.
On a plutôt l'IA positive, nous. Hein.
Bon, bah, tant mieux. On est optimiste pour une fois. Hein, pour une fois qu'on gueule pas dans notre coin. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Taïg.
Merci, c'était un plaisir. Trop bien.
Taïg Chris, qui a testé le Vision Pro et a adoré. Ce qui n'est pas le cas de Lucas Perraudin. Il va falloir que, tu sais quoi, si t'arrives à en avoir un.
Faites-vous une soirée.
J'en ai à Londres, mais j'ai pas essayé.
T'as même pas essayé.
Je vais le faire. Je promets, la prochaine fois que je viens, je vais
snobber le Vision Pro.
Nous dira. Et merci donc à Lucas Perraudin de Moula Digital. Et merci à Jérôme Colombin, ton podcast Monde Numérique.
Ouais. Tous les samedis et même tous les jours.
Tous les samedis, tous les jours, avec le meilleur de l'actualité.
Demain, je parle du robot dont on n'a pas parlé, tiens.
Oui, alors je sais, en plus, on avait titré sur le robot Atlas, mais les sujets sont tellement passionnants qu'on a un peu débordé. On en parlera demain parce que, évidemment, Boston Dynamics qui met à jour son robot Atlas, c'est très intéressant. Ce sera demain dans Tech & Co. On terminera la semaine sur ça. Merci à tous les trois. Vous restez avec nous. On a encore une demi-heure à passer ensemble avec au sommaire de cette dernière partie. Les ambitions de Motorola dans le monde du smartphone en France, vous allez voir qu'elles sont quand même assez élevées. Vont-ils arriver à relever le défi ? On posera la question à son directeur général qui va nous rejoindre sur ce plateau dans un instant. Et puis on évoquera le sujet d'actualité du moment, l'identification vidéo pour vérifier l'âge, notamment pour ces sites pour adultes. Vous savez qu'on essaie de trouver la recette miracle. Compliqué, hein. Eh bien, on recevra une start-up qui mise sur l'intelligence artificielle et la reconnaissance faciale. Est-ce que c'est une bonne idée ? On en parlera tout à l'heure avec notre invité. Merci d'être avec nous. Dans un instant, Léa Benaïm pour le Tech Flash, comme chaque soir. À tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne Tech Flash.
Voilà, 21h02, merci d'être toujours avec nous sur BFM Business et Tech & Co, la quotidienne. Et tout de suite, ce qu'il faut retenir de l'actualité tech en ce mercredi soir, en quelques minutes, c'est avec Léa Benaïm. Bonsoir Léa.
Bonsoir François et bonsoir à tous. À la une, TikTok a 24 heures pour fournir plus d'informations à l'Europe sur TikTok Lite, ce nouveau service lancé il y a quelques jours en France et en Espagne. La Commission européenne est inquiète concernant son impact sur la santé mentale des mineurs. TikTok Lite rémunère les utilisateurs en fonction du temps passé à regarder des vidéos. Et c'est justement cette récompense qui pose problème. Thierry Breton donne donc jusqu'à demain à TikTok pour s'expliquer sous peine de sanctions. Dans le secteur des jeux vidéo, les licenciements continuent après les 2000 postes supprimés chez Blizzard il y a quelques semaines. C'est le propriétaire du célèbre jeu GTA Tech 2, société mère de Rockstar, qui s'apprête à son tour à tailler dans ses effectifs. 5% des salariés devraient être licenciés d'ici la fin de l'année. Le groupe lance une stratégie de réduction des coûts avec l'abandon prévu de certains projets. Seul GTA 6, jeu très attendu pour l'année prochaine, devrait être préservé de ses coupes budgétaires. budgétaire. Retour en France avec un nouveau test ce week-end à Paris pour la VSA, la vidéosurveillance augmentée aux algorithmes, lors de deux événements, le match PSG-OL et le concert des Black Eyed Peas. Le dispositif n'autorise pas la reconnaissance faciale, mais repose sur la détection d'événements anormaux, comme par exemple un mouvement de foule ou encore la présence d'objets abandonnés. Il s'agit du deuxième essai de VSA sur le sol français. Le premier était début mars pour le concert de Dépêche Mode. La technologie est prévue pour les JO, sauf que sans entraînement régulier, les algorithmes risquent de ne pas fonctionner. Et puis encore une cyberattaque dans un hôpital. Cette fois-ci, c'est celui de Cannes où une cellule de crise a été activée. Le centre hospitalier fonctionne depuis hier matin sans informatique. Les dossiers des patients sont de retour sur papier et les opérations non urgentes repoussées jusqu'au feu vert de l'ANSSI. Et pour finir, rendez-vous sur les replays de BFM Business pour un nouvel épisode de votre rendez-vous ciné et série. Épisode suivant présenté par Clément Le Saffre et on parle cette semaine de Prime Video qui a mis à jour son abonnement standard avec de la pub. Et je vous propose tout de suite d'en écouter un extrait.
Jamais deux sans trois. Donc après Netflix et Disney+, c'est au tour de Prime Video de nous imposer de la publicité. Bon, j'ai gardé que les grandes plateformes principales. C'est en place depuis à peu près une semaine maintenant. On va détailler la formule et le prix dans un instant. Mais avant, je voulais vous poser cette question de but en blanc. Est-ce que vous comprenez, vous, en tant que spécialiste des séries, des plateformes, vous suivez cette actu, bah, l'arrivée de la pub sur la plateforme de streaming d'Amazon?
Bien sûr, tu l'as rappelé, hein, c'est des entreprises privées avec à la fois objectifs et surtout des actionnaires qui sont pas contents quand l'argent ne coule pas à flot sur leur compte en banque et leurs revenus passifs ne sont pas très élevés. Donc évidemment que c'est compréhensible de la part d'Amazon et compagnie de mettre de la publicité, de vouloir augmenter leurs revenus, leurs dividendes, etc. On va pouvoir nuancer après sur ce que ça nous fait à nous, consommateuristes de séries, mais oui, on les comprend.
Ça vous surprend pas plus que ça en tout cas?
Voilà, épisode suivant retrouvé sur la plateforme Tech & Co, bien évidemment, et sur l'appli RMC BFM Play, 21h05. On s'intéresse tout de suite au marché du smartphone avec Motorola.
Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Et j'accueille Pierre-Yves Hurtmeyer. Bonsoir Pierre-Yves.
Bonsoir.
Et désolé pour l'écorchage de nom.
J'ai l'habitude.
Vous êtes le directeur général de Motorola France et Benelux.
C'est ça.
Actualité chargée pour Motorola puisque vous sortez toute une nouvelle gamme de téléphones, la série Edge, avec le Pro, le Ultra, le Fusion qu'on va détailler dans un instant. Vous les avez apportés d'ailleurs sur ce plateau. Motorola, alors pour les plus anciens d'entre nous, ça évoque quand même l'âge d'or de la téléphonie mobile. GSM, hein. À l'époque, vous étiez l'un des plus gros vendeurs de téléphones. On se souvient des téléphones à clapet, les Hello Moto, etc., etc.
C'est ça.
Et puis après, ça a été un peu moins bien, quand même.
Passage après un petit peu plus difficile,
un peu plus compliqué. Le virage du smartphone a été plus dur pour Motorola.
Oui, avec ensuite l'acquisition de Motorola par Google, hein, qui n'avait pas été forcément un succès. Et depuis 2014, et l'acquisition de Motorola par le groupe Lenovo, là pour le coup, ça a vraiment donné un nouvel élan.
Ça fait 10 ans déjà que Lenovo a racheté Motorola.
Oui. Wow.
Ça passe vite.
Ça va vite.
Lenovo, rappelons-le, constructeur de PC, hein, souvent numéro 1 d'ailleurs.
Numéro 1.
Dans ce domaine-là, chinois. Et qui a gardé quand même, on va dire, l'âme américaine de Motorola. Parce que Motorola, c'est une marque américaine et qui reste, aux yeux des Américains, d'ailleurs, une marque de chez eux. Puisque aujourd'hui, les téléphones Motorola aux États-Unis, ça marche.
Et qui reste très présent sur le marché américain. Enfin, alors, le marché américain et sud-américain est un bastion pour Motorola. Avec une position de numéro 3, plus de 10% de part de marché aux États-Unis, une position de numéro 2 en Amérique du Sud, avec numéro 1 dans certains pays. Donc voilà, ça reste vraiment un bastion très établi de l'autre côté de l'Atlantique, ce qui nous différencie un petit peu de la concurrence. Et une société très internationalisée. On a toujours notre siège aux États-Unis, le siège historique à Chicago, avec les centres de R&D. Donc voilà, c'est une marque qui reste très présente.
C'est ce que je disais, vous gardez l'âme américaine de la marque avec les ingénieurs, etc. Parce que Motorola, historiquement, c'était quoi? C'était la radio, finalement. C'était un peu la puissance de cette boîte-là. Hein.
Oui, ça a été une centaine d'années. Ça a été le premier appel passé avec un Motorola. Le premier appel passé depuis la Lune a été passé avec un Motorola.
Incroyable.
Il y a un héritage
technologique
très conséquent, très
historique aussi, totalement fou. Mm. Aujourd'hui, Motorola, c'est que des smartphones ou il y a d'autres branches qui font autre chose?
Alors, il y a deux entreprises. Enfin, hein, moi, je suis le directeur général de Motorola France, donc rattaché à Lenovo. Il y a une autre entité, mais dont nous sommes séparés depuis 2014.
Qui n'a rien à voir,
qui est Motorola Solutions, les Talkie Walkie, etc.
Ça existe toujours, les Talkie Walkie. C'est
toujours.
Fou, hein, quand même.
Toujours.
Et donc, Motorola, depuis quelques années, revient en France. Il y a eu un petit passage à vide, et puis là, vous avez remusclé toute votre équipe, commercial, marketing, etc. Pour être beaucoup plus agressif sur le marché français. J'imagine que c'est pas facile, parce que c'est un marché complexe, avec beaucoup d'acteurs, un marché saturé aujourd'hui, avec deux géants qui dominent, hein, Apple et Samsung, beaucoup de Chinois qui sont là, et puis vous, au milieu de tout ça.
C'est surtout un marché qui tend maintenant, enfin, en tout cas depuis le début de l'année, à se stabiliser, mais qui a enregistré quand même des baisses conséquentes. Hein. On estime cette année un marché en France à 12 millions de pièces. On vient, il n'y a pas si longtemps que ça, en France, d'un marché à 20 millions d'unités. Donc voilà, on est dans un contexte extrêmement concurrentiel, on le savait. Après, l'héritage de Motorola, son ADN, la notoriété de la marque nous aide beaucoup. On a commencé à opérer ce retour sur le marché français il y a 3 ans, rebâti des fondations solides. Donc maintenant, on peut passer à la seconde partie de notre plan. Hein. On est engagé sur un plan à 3 ans, dont l'objectif est d'être numéro 3 mondial en dehors de la Chine. Donc ce qui veut dire quelque part en France, en 2028, entre 15 et 20 de part de marché.
Alors qu'aujourd'hui, vous êtes à...
On a bien franchi cette première étape. On avait visé en fin de notre année fiscale, qui était il y a 15 jours, la place de numéro 3 Android, qui est établie maintenant depuis le début de l'année pour Motorola en France. On a 5% de part de marché. À l'échelle stabilisée du marché, 15% dans certains canaux. Donc voilà, cette première étape est franchie. On veut prendre le temps de faire les choses correctement, de bien installer nos fondations, et puis de faire grandir aussi nos équipes en même temps pour porter ce projet.
Et puis de créer un écosystème. Hein. J'ai l'impression que vous sortez des téléphones, mais aussi des accessoires.
Oui.
Exactement.
On a annoncé effectivement hier, comme vous le citiez, 3 nouveaux Edge, plus des Buds.
Les Edge, ce sont les nouveaux téléphones, en fait.
Les Edge sont les nouveaux smartphones, c'est notre gamme premium. On a 4 gammes, hein, qui sont les E, les G, les Edge et les fameux Razor, les pliables. Et on a renouvelé cette gamme Edge hier, qu'on a annoncé hier, avec 3 produits, que sont le Pro, l'Ultra et le Fusion. Voilà, c'est des produits qui couvrent des gammes de prix assez larges, entre 399 et 999 euros. Et on a utilisé aussi notre nouveau partenariat avec Bose pour lancer nos propres Buds, donc qui s'appellent les Moto Buds Plus, sound by Bose, donc qui sont qualifiés par Bose et qui offrent une expérience audio assez surprenante.
C'est intéressant parce que Bose, je crois, à ma connaissance, n'a jamais licencié son savoir-faire avec une autre marque.
J'en ai pas souvenir non plus.
Ça m'a vraiment choqué parce que Bose a toujours été un peu... fait cavalier seul sur sa technologie. Oui. Là, le fait qu'ils s'associent à vous, alors ils sont américains, hein, oui. Bose aussi, oui. C'est assez intéressant et ça va être intéressant justement de tester ces Buds pour voir la qualité sonore qu'ils restituent. Ces téléphones, comment les démarquer en fait de la jungle de smartphones Android aujourd'hui?
Alors ça passe par ces partenariats, hein, avec Bose. On a un partenariat aussi très prononcé avec Pantone. Donc Pantone, c'est vraiment la société qui fait autorité dans les tendances couleurs et autres. Donc ça nous permet de lancer des smartphones qui arborent la couleur de l'année avec Bose, avec des matériaux comme du cuir vegan ou autre.
Pantone, en fait, à chaque année donne une couleur qui se veut être la couleur de l'année.
C'est ça. Hein,
et qui va être, en fait, généralisé un peu partout.
À tous les univers, de l'automobile, du meuble.
Voilà, c'est une référence en termes de design ou de... Comment dirais-je? Oui, de qualité,
de tendance.
Voilà, ou d'esthétisme.
Oui, de tendance. Donc, le jour où Pantone annonce la couleur de l'année... Notre smartphone sort en même temps, est annoncé avec cette couleur.
Donc vous avez un partenariat avec eux.
Donc voilà, ça nous permet vraiment de nous différencier. Forcément, après, il y a le... tout l'aspect technique, enfin, offrir le meilleur rapport technique-prix. Donc là, on couvre vraiment, et c'est ce qui nous différencie beaucoup, et beaucoup de segments, hein, de 99 jusqu'à 1200 euros, et sur différents formats, comme les pliables. Donc voilà, on est vraiment.
Et vous prenez le train de l'IA en marche.
Oui.
On voit que c'est une tendance aussi qui arrive sur les smartphones. Samsung a beaucoup communiqué sur CS24 et l'intelligence artificielle. C'est le cas aussi donc avec cette gamme Edge.
Chez Motorola, on est certain, on sait que l'IA sera vraiment centrale, hein, en particulier dans l'environnement du smartphone. Ce que ça veut dire aujourd'hui l'IA concrètement pour nous, c'est l'intégration beaucoup autour de la photo, mm-hmm. et tout ce qui peut vous aider en fait à automatiser vos prises de clichés sans forcément avoir besoin d'aller faire tous les réglages.
Ça, c'est pas nouveau, excusez-moi, ça fait un moment que ça existe.
Alors, c'est pas nouveau, mais maintenant c'est motorisé par l'IA et c'est natif dans le smartphone, c'est-à-dire que vous ne vous rendez même pas compte.
D'accord.
Sur un effet bokeh automatique, une stabilisation automatisée, enfin vraiment beaucoup d'aide. Pour tenter d'avoir une photo telle que pourrait la faire un professionnel. Ouais.
L'IA générative, on en parle beaucoup. Est-ce que elle est intégrée dans cette?
Non, elle n'est pas intégrée. Enfin, pour nous, à date, vraiment l'IA, c'est quelque chose qu'on centralise autour de la photo. En tout cas, pour cette série de produits.
J'imagine que la bataille des prix est importante aussi. D'après ce que j'ai pu voir, vous en proposez toujours plus pour moins cher par rapport à la concurrence. Hein. Vous avez des stockages à 1 teraoctet qui coûtent une fortune sur d'autres téléphones. Et vous, on est en dessous des 1000 euros, c'est ça?
C'est ça. En fait, le Edge 50 Ultra est un produit qui processe 16 gigas de RAM et 1 tera de stockage. Ouais. Et en dessous de 1000 euros, avec un processeur Snapdragon de dernière génération. Donc c'est vraiment une proposition de valeur unique. Et en dessous de 1000 euros, c'est assez difficile à trouver sur le marché. Et c'est quelque chose qu'on étend à l'échelle de notre gamme, sans forcément être moins cher, mais offrir plus de capacité de stockage, plus de résistance aussi autour de la durabilité. Enfin, l'ensemble de ces produits sont IP68, donc ils résistent à l'immersion, ils résistent au choc. Mmh.
Dernière petite question, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la durée de vie des téléphones aujourd'hui avec les mises à jour qu'on peut garantir. Est-ce que vous faites attention à ça aussi? On voit que Google essaie de proposer 6 ans, 7 ans de mise à jour. Apple aussi essaie d'allonger la durée de vie de ses produits. C'est le cas aussi chez vous?
Alors c'est un point très important pour nous. On est engagé dans une démarche de neutralité carbone à l'échéance 2050. On est accompagné dans le processus d'SBTI. Donc quand on revient sur cet aspect autour des smartphones, ouais. on peut aller jusqu'à 5 années. Aujourd'hui, ces produits-là sortent avec 3 années d'OS upgrade, on peut aller jusqu'à 5 dans certains cas. Et quand on propose des produits IP68, Gorilla Glass, vraiment, enfin, la durabilité, le fait de pouvoir garder son smartphone le plus longtemps possible est au centre de nos préoccupations. Ouais.
Voilà, c'est cette nouvelle gamme Edge qui a été annoncée hier, je crois.
Hein, c'est ça.
Voilà, ces jours-ci. Merci beaucoup, Pierre-Yves Hortmeyer. Vous êtes directeur général de Motorola France et Benelux.
Merci.
Et tout de suite, direction la rédaction de Tech & Co, comme chaque soir.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.
Bonsoir Kesso Diallo.
Bonsoir François.
Journaliste à la rédaction de Tech & Co. Et ce soir, tu vas nous parler de HMD. Tiens, c'est rigolo, on parlait de Motorola. C'est l'un des concurrents de Motorola d'ailleurs. HMD qui a dévoilé un téléphone aux couleurs d'une célèbre bière.
Oui.
Déjà, t'as pas trop bu avant d'écrire cette chronique?
Non, quand même
bon,
pas.
Rassure-moi. Très bien.
Déjà, pour commencer, HMD, pour ceux qui connaissent pas, c'est ceux qui ont créé les derniers smartphones de Nokia. Et là, ils ont lancé un boring phone, un téléphone ennuyeux, quoi.
C'est vendeur.
C'est, ouais, c'est tout simplement un téléphone à clapet aux couleurs de la bière Heineken. Évidemment, François, avec ce téléphone, tu peux pas faire grand chose. Tu peux pas aller sur Internet, tu peux pas aller sur les réseaux sociaux, tu peux pas consulter ta boîte mail et télécharger des applications. Tout ce que tu peux faire, c'est envoyer et recevoir des messages et jouer au jeu mobile Snake. Donc, c'est pas fou.
Ouais, d'accord.
Mais t'as quand même une sacrée batterie. Tu pourrais l'utiliser pendant 20 jours avant de devoir le charger.
Pas mal, ouais. Histoire d'avoir le temps de boire quelques bières. Toujours à consommer avec modération.
On rappelle quand même, oui, l'abus d'alcool est dangereux et à consommer avec modération.
Bien évidemment. C'est quoi l'intérêt de ce téléphone, plus sérieusement?
C'est bien sûr encourager la déconnexion numérique, favoriser le lien social, évidemment loin des écrans. Et pour Heineken, c'est tout simplement un joli coup de com'. La marque, elle parle d'un retour à l'essentiel de la technologie pour aider les gens à se connecter autour d'une bière.
Il faudra payer combien pour avoir ce téléphone ennuyeux, boring, comme tu dis? J'espère que le prix n'est pas trop ennuyeux.
Bah, tu vas être très content parce que tu n'as pas à débourser un centime.
Ah oui.
Le téléphone il sera gratuit, il sera offert lors de jeux concours sur les réseaux sociaux. Par contre, il sera lancé en édition limitée, tu auras seulement 5000 exemplaires. Donc, faudra faire attention.
Bon.
Et téléphone, c'est le second téléphone à clapet de HMD cette année. Je ne sais pas si tu te souviens, mais quand tu étais au Mobile World Congress, ils ont parlé d'un téléphone aux couleurs de Barbie qui devrait sortir cet été.
Et j'en connais une, Léa Benaïm, qui est productrice de cette émission, qui attend ça avec impatience, le téléphone Barbie. Ouais. Merci
beaucoup.
Moi aussi,
j'ai hâte de voir.
On va voir. Espérons qu'on puisse l'avoir bientôt sur le plateau. Merci beaucoup, Kesso Diallo, journaliste à la rédaction de Tech & Co.
Avec plaisir.
Et pour terminer cette émission, on va parler de la protection des mineurs en ligne. Des mineurs en ligne, justement, avec une solution technologique qu'on vous présente tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Et j'accueille Stéphane Mavel. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. C'est
merci
rare ce prénom, Stéphane.
Alors, vous avez
pour
sûrement
une
l'âge.
C'est féminine.
C'est Stéphane Audran. Les gens de notre âge, voilà, la référence est Stéphane Audran.
C'est vrai. Vous êtes en charge de la stratégie de la promotion de l'identité numérique chez IDNOW, qu'on va développer dans un instant. Vous êtes ancienne membre de France Connect à la direction interministérielle du numérique. C'est intéressant d'évoquer votre pédigré parce que, évidemment, tout ça est intimement lié.
Bien sûr.
C'est vrai qu'on évoque ensemble ce projet de loi qui a été adopté par l'Assemblée nationale le 10 avril. C'est le projet de loi, hein, donc ça veut dire que tout ça n'est pas encore gagné, qui vise à sécuriser l'espace numérique pour les mineurs. Et c'est vrai qu'on se gratte la tête dans tous les sens pour essayer de trouver une solution qui tienne la route pour pouvoir vérifier si oui ou non un jeune de moins de 18 ans va sur des sites pour adultes, hein, pour résumer.
Oui, tout à fait.
C'est ça. Quel est votre point de vue là-dessus et la solution que vous développez chez IDNOW?
Alors déjà, oui, enfin, je rebondis sur ce que vous dites. Quand on se gratte la tête, ça fait des années que nous, en tant qu'adultes, je pense qu'on est collectivement tous responsables. En tous les cas, on est tous sensibilisés à la cause de protection des mineurs sur Internet. Et c'est vrai que jusqu'à présent, le cadre juridique, il faut admettre qu'il n'était pas forcément propice à imposer, on va dire, un cadre technique au site qui proposait du contenu pour adultes. Aujourd'hui,
juste une chose, d'autres pays étrangers ont essayé de faire ça, ils se sont tous cassés les dents là-dessus.
Hein. Mais complètement. C'est pour ça qu'on savait bien qu'en France, ça serait compliqué. Et moi, je trouve que c'est assez enthousiasmant de voir que ça y est, dans cette loi, il y a vraiment un cadre qui se dessine avec un référentiel de l'ARCOM qui a un premier projet avec pas que la carte bancaire, il y a aussi un appel à contribution de l'ARCOM pour faire de ce référentiel le cadre qui va définir les solutions, parce que l'ARCOM revendique bien le fait qu'ils ne veulent pas prôner un catalogue de solutions. En revanche, ils veulent imposer aux sites à contenu pour adultes un certain nombre de critères à respecter. Donc en fait, IDNOW, nous, on est une société franco-allemande qui a pour ADN de faire de la vérification d'identité à distance depuis une douzaine d'années. C'était une société qui s'appelait Ariane Next en France, à Rennes, société bretonne, et la société, son équivalent allemande à Munich. Ces deux sociétés ont fusionné il y a 2 ans, mais l'ADN, c'est toujours la vérification d'identité à distance. Et l'étape pour laquelle je suis là et pour laquelle j'incite à ce que sur la protection des mineurs, ça soit un des usages, c'est de créer une identité numérique. En fait, on a créé une identité numérique, comme la Poste en France l'a créée aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà évoqué ce sujet-là dans votre émission, mais en France, l'écosystème est en train de se construire. Donc on est
France Connect, c'est une identité numérique.
Alors, France Connect, c'est un dispositif qui fédère des fournisseurs d'identité. C'est-à-dire, France Connect, en tant que tel, ne porte pas de données d'identité. En revanche, il fédère des fournisseurs d'identité. Mais France Connect fédère des fournisseurs d'identité qui ne permettent pas d'avoir un niveau de garantie suffisant pour aller sur des usages sensibles comme la protection des mineurs.
Alors,
France Connect, ça va faciliter l'accès à vos démarches publiques, par exemple,
sûr.
De déclaration
c'est
des
bien
impôts.
Pratique, hein.
Et c'est génial.
Oui.
Et c'est génial.
Pour Amélie, pour les impôts, etc. etc.
Oui,
les impôts en ce moment, on y va souvent sur France Connect.
Oui, oui.
Stéphane, expliquez-nous à IDNOW, quelle solution vous proposez?
En fait, l'identité numérique, c'est l'équivalent dans le monde numérique de preuve de notre identité comme on le fait dans le monde physique en présentant sa pièce d'identité. Donc en fait, pour un citoyen, l'identité numérique, c'est la première fois qu'il doit faire une manipulation pour créer son identité. Donc on part d'une pièce d'identité régalienne, évidemment, comme les banquiers pour leur carte
bancaire.
On passe tous d'une carte, voilà, un passeport, une carte d'identité. On fait une vidéo de notre carte d'identité ou de notre passeport, puis une vidéo de notre visage pour nous assurer que la personne qui est en train de créer son identité, le visage de la personne est bien le même visage que celui sur la pièce d'identité. D'accord. On a énormément, on a une cinquantaine de points de contrôle. On travaille avec le ministère de l'Intérieur et la gendarmerie depuis des années pour faire en sorte, en fait, que cette identité numérique qu'on crée, elle soit la plus fiable possible. Et évidemment, c'est une course contre la montre. J'imagine, voilà. Enfin, on imagine bien que tout ça, c'est. Mais nous, on a la valeur ajoutée de notre entreprise, c'est justement d'avoir 12 années de travaux pour s'assurer que les cartes d'identité sont fiables et que ce matching entre D'accord. le visage et la photo corresponde bien.
Ça veut dire que un mineur qui souhaiterait dans les mois ou les années à venir aller sur un site pour adultes, par accident ou par volonté, ne pourrait pas parce que il n'aurait pas cette identité numérique de par sa carte d'identité. Et votre solution, c'est ça ?
Admettons même qu'il l'est, parce qu'on peut imaginer, nous, on propose une identité numérique pour les mineurs.
Bien sûr.
Comme dans les données d'identité qu'on
collecte...
Il aura
moins de 18 ans.
Voilà. Nous, dans le cadre de l'usage sur les sites porno, l'idée, c'est vraiment de n'envoyer que « je suis majeur », oui, non. C'est évidemment pas d'envoyer des données d'identité.
Mais c'est un sujet sensible quand même, non ?
Oui, c'est un sujet sensible, mais en même temps, c'est toujours l'équilibre. D'ailleurs, dans le référentiel de l'ARCOM, c'est l'équilibre entre la fiabilité des solutions et la protection de la vie personnelle.
Bien sûr.
Et l'identité numérique, elle est là pour ça, en fait. C'est vraiment l'utilisateur, il a son identité numérique entre ses mains. Et de temps en temps, s'il veut aller sur les sites porno, 20 millions de personnes chaque mois qui vont sur les sites porno, donc ça concerne énormément de citoyens. Au moment où il veut aller sur le site, son identité numérique va permettre juste d'envoyer la preuve qu'il est majeur. Et on s'arrête là.
Et comment vérifier concrètement, c'est quoi ? C'est une reconnaissance faciale ? Comment ça marche pour valider en fait que c'est bien moi qui suis sur mon ordinateur ou sur mon smartphone ?
Alors en fait, quand vous créez cette identité, j'ai expliqué le process pour la créer, vous allez télécharger une application. Donc nous, c'est une application qui s'appelle Iris, mais bon voilà, vous avez l'application de la Poste. Et lorsque vous allez créer votre identité, donc une fois que vous aurez fait ce contrôle de la pièce d'identité, vous allez personnaliser un code secret. Et ensuite, à l'usage, ça va fonctionner un peu comme quand vous validez des paiements. Vous savez, depuis maintenant, en particulier la crise Covid, quand on valide des paiements, on a notre application bancaire qui se réveille et on saisit un code sur l'application bancaire et ça valide le paiement. Pour l'identité numérique, vous voulez accéder à un site pour adultes, vous allez avoir Iris, vous allez avoir un bouton je prouve mon âge avec Iris, vous cliquez sur le bouton. Sur votre smartphone, vous avez une notification qui dit tu as une demande, donc ouvre ton application de vérification de ton âge.
Ouais.
On ouvre l'application Iris, l'utilisateur saisit son code secret, donc si c'est un parent, l'enfant n'a pas le code secret, ni il a éventuellement le téléphone, parce que c'est vrai qu'on prête parfois le téléphone à nos enfants, mais il a sûrement pas le code secret de l'application Iris.
C'est ça, d'accord.
Et donc voilà, seul l'adulte l'a, et lorsqu'il le saisit, à ce moment-là, nous...
Ça libère en fait l'accès au site.
C'est ça, on renvoie juste au site le « oui, il est majeur ». Et c'est tout.
Et ça peut servir à plein d'autres choses que pour le visionnage de sites pour adultes, en fait.
Ah, mais évidemment. Nous, voilà, l'identité numérique, l'idée, c'est qu'elle nous permette d'accéder à tous nos usages du quotidien. L'usage d'accès aux sites pornographiques pour un majeur fait partie des usages du quotidien. Et il n'y a pas de sujet. Et contrairement à d'autres acteurs qui obligent à télécharger une application qui est clairement tatouée « je vais sur des sites porno », où il y aura un frein à l'adoption, nous, c'est l'identité numérique. Et elle sert à tout.
Très intéressant. On va voir comment tout ça évolue. Merci beaucoup, Stéphane, d'être
avec
passé par le plateau de
Tekkenco.
Stéphane Mavel, donc, et vous êtes donc en charge de la stratégie, de la promotion de l'identité numérique chez ID Now. Pour terminer ce Tekkenco, j'espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. On sera là demain. C'est la bonne nouvelle. 20h, 21h30 en direct à la radio, à la télé, les replays qui vous attendent et les podcasts. Bonne soirée et à demain, donc.